prions pour l'esprit que tu nous as donné. Merci Seigneur. Seigneur, fortifie notre frère. Nous t'ouvrons notre cœur, Seigneur. Fortifie notre frère. Qui dispense les paroles de la vie éternelle. Nous voulons entendre ta voix, Seigneur. Enseigne-nous par ton onction. Seigneur, ce soir, donne-nous aussi de la vie en abondance, afin que nous sachions que nous avons passé de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Seigneur, nous te remercions parce que nous pouvons entendre ta voix ce soir. Donne-nous à tous des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Purifie nos cœurs et purifie nos pensées. Donne-nous à tous un cœur qui comprend ta parole, afin que la parole tombe dans la bonne terre. Amen. Durant ce temps, j'ai vraiment chéri ce livre de 1 Jean. Jean rend les choses si claires. Il n'y a pas de place pour le doute. La mort, la vie, la haine ou l'amour, c'est si clair. Dans l'épître de Jean, c'est si clair. Et cet aspect qu'il accentue particulièrement est celui de l'amour. Nous avons lu ces versets. Il commence avec l'exemple de Caïn qui était du malin et qui a tué son frère. Et la parole nous dit aussi que dans le monde, en effet, il n'y a pas d'amour. Spécialement dans ce temps, avant le retour du Seigneur, l'amour s'est refroidi et la haine est omniprésente autour de nous. Un exemple ici, c'est ce qui s'est passé avec Caïn. Tout le monde a su qu'on les nommait des frères. Mais regardez à quel point il y a de la haine qui s'est développée. Et là, en voyant vraiment que le monde est dans la main du malin, l'expression est la haine. C'est le produit de ce qu'on peut voir. Jean nous dit aussi ici, « Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. » Ça signifie, pour nous, ça ne va pas être quelque chose d'inhabituel si nous aimons le Seigneur, si nous tenons de son côté. Ça ne va pas être étonnant que nous nous confrontions à la haine du monde. Comme Jean le dit, c'est quelque chose de normal. Il a dit, si le monde haït, alors le monde vous haïra aussi. Et Seigneur a dit, pourquoi est-ce que le monde les a haïs? Parce que le Seigneur témoigne de leurs mauvaises œuvres. Le monde va nous haïr si nous sommes un témoignage pour le Seigneur. Mais si nous aimons le monde et si nous sommes rendus semblables à lui, je ne crois pas que le monde va nous haïr. Ce sera difficile. Mais si nous aimons le Seigneur et si nous lui sommes fidèles, si nous nous tenons du côté de la vérité, si nous proclamons la vérité, nous allons expérimenter de l'opposition. Je remarque cela avec mes collègues. Je peux parler avec eux de tous les sujets, mais à peine est-ce que j'aborde un seul mot au sujet du Seigneur, c'est terminé. Ils ne me regardent plus. Si j'arrête de parler du Seigneur, les yeux se lèvent à nouveau et puis ils me regardent de nouveau. On ne doit pas s'étonner que le monde nous hait. Jean aimerait vraiment nous mettre cela en évidence par cet exemple d'Abel et Caïn. Si l'offrande d'Abel n'avait pas été agréée par Dieu, il n'y aurait pas eu de ce meurtre. Mais le meurtre a eu lieu parce que l'offrande d'Abel a été agréée, elle était juste. Notre vie avec le Seigneur met en évidence la méchanceté de ce monde. C'est pourquoi notre marche est si importante pour que nous soyons un témoignage en ce temps. Que nous ne soyons pas comme le monde, mais au contraire, que nous vivions comme le Seigneur. Jean ne nous décrit pas seulement la haine du monde à notre égard, mais il dit aussi « celui qui est son frère ». Malheureusement, parmi le peuple de Dieu, il y a aussi de la haine. C'est quelque chose de très triste. Il dit, celui qui est son frère demeure dans la mort. Si nous voyons l'Écriture, nous voyons que l'Écriture met en évidence beaucoup de situations de haine entre des frères. Nous voyons cela chez Ésaü et Jacob. Et nous voyons Joseph, comme il a été détesté de ses frères. Quelle haine était à son égard par ses frères. Il voulait le tuer. Si nous voyons le peuple d'Israël du temps des juges et des rois, combien de guerres, non pas contre les autres nations, mais entre eux. Combien de morts, une tribu contre l'autre, les rois contre rois, Judas contre Israël. Je vous donne un exemple parce que cela montre à quel point c'est insensé. Par exemple, dans Juges 12, versets 4 à 6. Entre Galaad et Ephraïm, il y avait un combat parce que les Ephraïmites disent qu'ils n'ont pas été pris avec, en fait. On va brûler. Et Galaad était plus fort. Dans Juges 12, versets 4 à 6, à partir du verset 5, à partir du verset 4, Jephthé rassembla tous les hommes de Galaad et livra. Bataille à Ephraïm, les hommes de Galaad battirent Ephraïm parce que les Ephraïmites disaient « Vous êtes des fugitifs d'Ephraïm ». Galaad est au milieu d'Ephraïm, au milieu de Manassé. Galaad s'empara des guets du Jourdain du côté d'Ephraïm. Et quand l'un des fuyards d'Ephraïm disait « Laissez-moi passer », les hommes de Galaad lui demandaient « Es-tu Ephraïmite ?» Il répondit « Non ». Il disait alors « Eh bien, dis Shibboleth ». Et il disait « Shibboleth », car il ne pouvait pas bien prononcer. Sur quoi les hommes de Galaad le saisissaient et l'égorgeaient près des guets du Jourdain. Il périt en ce temps-là 42 000 hommes d'Éphraïm. Simplement parce que tu ne pouvais pas dire Shibboleth, tu es mort. C'est étonnant, n'est-ce pas? Il ne peut pas dire Shibboleth, mais il dit Shibboleth. C'est une image sur nous, par rapport à nous. Aujourd'hui, nous, chrétiens, nous ne combattons pas avec des armes, heureusement, et pas avec le poing, mais il y a un combat spirituel. Et spirituellement, il y a beaucoup de meurtres. beaucoup de meurtres parmi le peuple chrétien. Et ceci à cause de choses les plus simples parfois. Simplement parce qu'il y en a un qui ne tient pas le sabbat, respecte pas le sabbat. Un parce qu'il aimerait adorer le Père. C'est vraiment incompréhensible. Combien de choses arrivent, combien de combats entre les frères et sœurs. Il y a beaucoup de haine. Et pour nous, c'est un avertissement. Car Jean dit, quand la haine est là, alors tu es aussi un meurtrier. Ça signifie que s'il y a de l'amertume dans ton cœur et que cette amertume se transforme en haine, alors c'est une occasion de chute. Nous devons vraiment veiller. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur nous avertit d'une telle amertume et de la haine les uns à l'égard des autres. Matthieu 5, quand tu appelles ton frère, je crois que c'est Raka, si vous vous, dans Galate 5, si vous vous mordez les uns les autres, cela montre comment le Seigneur nous avertit des racines d'amertume entre nous, de la haine. C'est véritablement quelque chose de très sérieux. Nous ne devons pas être légers avec ces choses. Ce n'est pas une petite chose. Cela peut emmener de la mort dans l'Église. Si cette haine, spécialement à l'égard des frères conducteurs, demeure, eh bien, il y a le danger de la mort dans l'Église. C'est pourquoi nous devons vraiment faire attention à la haine grandissante. La conséquence est aussi que tu perds ta récompense. C'est aussi une conséquence. Si nous vivons de la haine à l'égard des frères, Jean dit, celui qui est son frère, il n'a pas la vie éternelle qui habite en lui. La conséquence, dans la ville, dans le royaume des mille ans, tu dois traverser les épreuves et non pas la vie éternelle. Aujourd'hui, nous savons que le retour du Seigneur est proche. C'est pour cette raison qu'il est très très important pour nous de rechercher la réconciliation. Si nous remarquons quelque chose qui monte de la haine à l'égard de frères et aussi dans les couples, dans la vie de couple, peu importe, dans la famille, la réconciliation est très importante. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous avons lu que le Seigneur était très proche. Le temps est très proche. Tu ne sais pas non plus combien de temps tu as. Nous ne savons pas combien de temps l'autre a avec qui j'ai un problème. Nous ne savons pas si dans quelque temps il est encore là, dans une semaine. Il est bon, comme dans Matthieu 5, tant que ton adversaire est là et que tu peux marcher avec lui, va te réconcilier avec lui. C'est vraiment un avertissement important. Je voudrais raconter un exemple par rapport à un frère à qui j'ai rendu visite dernièrement. À quel point le Seigneur l'a averti de l'amour. Il avait dans son cœur une amertume contre quelqu'un. Il a désiré que son mariage finisse. Qu'est-ce qui est passé à ce frère? Il s'est réveillé, il ne sait pas pourquoi. Il est descendu de l'escalier, il a glissé, il s'est tapé la tête contre le mur. Il s'est brisé la nuque. Et puis il avait cette vertèbre où que tu casses, c'était soit mort, soit tu es handicapé. Et le Seigneur lui a été miséricordieux. Il n'a été ni l'un ni l'autre. Je lui ai rendu visite. Et puis il a dit, je crois que le Seigneur m'aime beaucoup. J'ai dit, vraiment, le Seigneur m'a discipliné. Il a vraiment, il a souhaité cette expérience à son prochain, et puis ça lui est arrivé à lui, en fait. Et nous avons aussi eu de la communion avec son épouse. Et nous avons vraiment utilisé, donné ce conseil, utilisé vraiment cette situation pour purifier toute chose devant le Seigneur. Il a dit, je ne serai pas prêt pour me tenir devant le Seigneur. Mais le Seigneur, dans son amour, l'a réveillé pour revenir à lui, de se repentir et de se réconcilier aussi avec les personnes contre qui il avait de l'amertume. Ça me rappelle aussi à moi que nous ne devons pas être légers avec ces choses, mais de vraiment être en ordre avec nos prochains. L'exemple que Jean nous donne est celui du Seigneur. À Jean. Verset 16, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères, notre vie de l'âme. Et c'est une parole merveilleuse, un exemple merveilleux. Nous tous, nous étions errants comme des brebis. Chacun allait son chemin. Il n'y a pas un qui cherchait la justice. Et personne ne cherchait Dieu. Personne ne s'est levé. Et la parole nous dit, Dieu n'a manifesté son amour en ce que Christ est mort pour nous. Le Seigneur, dans son amour, a fait le premier pas. Il s'est levé. Il a résolu le problème du péché. En ce que nous étions encore des pécheurs. Et c'est un exemple pour nous. Nous aussi, nous devons faire le premier pas. Si nous aimons les frères, alors nous devons faire le premier pas. L'amour du Seigneur se manifeste en moi par le fait que je fais le premier pas. C'est l'amour fraternel. C'est l'amour du Seigneur. Même dans la vie de couple, parfois il n'y a plus la paix dans le couple. Tu as oublié quelque chose et ton épouse te fait à nouveau un reproche. Et nous vivons par un manque de paix. Soit tu t'enterres dans ton offense, soit tu fais le premier pas. Cherchons vraiment la réconciliation. Et ce premier pas a aussi une condition. Tu dois laisser ta vie de l'âme à cause de l'amour pour le frère. Si tu ne laisses pas de côté ton orgueil, alors tu restes dans la mort. Durant ce temps, nous avons eu de la communion au sujet de l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui conduit à la mort. Si nous laissons notre vie de l'âme pour la parole, alors nous pouvons gagner la vie. Le Seigneur dit par exemple, si le grain de blé ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte du fruit. Si je ne renie pas mon moi, alors je reste dans la mort. J'ai certainement gagné ma vie de l'âme, mon orgueil, mais la conséquence, c'est que je reste mort et aussi l'autre est mort. Si je laisse ma vie à cause des frères, moi j'ai la vie et je peux transmettre la vie à mon prochain. C'est pour ça qu'il est d'autant plus important pour nous, l'exemple du Seigneur, l'amour qu'il a manifesté pour nous, nous entraîne à ce que nous laissions notre vie de l'âme pour les frères. Je crois qu'il n'y a pas de plus grande expression de l'amour parmi nous que cet exemple. Comme le frère l'a dit, ce n'est pas difficile d'aimer ton prochain quand tout va bien. Si Simon est toujours sympathique avec moi, ce n'est pas difficile d'aimer Simon. Nous n'avons même pas besoin de parler, d'aborder ce sujet. Mais s'il y a une difficulté qui vient se glisser entre nous, alors l'amour du Seigneur est manifesté en ce que je laisse la vie de mon âme. Alors l'amour est vraiment manifesté. C'est ce que nous devons apprendre. En ces jours, j'aimerais vraiment le prendre pour moi aussi, l'amour du Seigneur, le prendre comme étant un exemple pour moi. À quel point le Seigneur m'a aimé, était prêt à laisser tout pour moi. Alors à mon tour, je serai prêt à laisser tout pour restaurer la relation avec mon frère. À Sion, ça doit être présence. Dans la chrétienté, il n'y a pas beaucoup de ces choses. Si nous sommes l'église à Philadelphie, c'est précisément ces choses qui doivent se manifester. Je prie le Seigneur pour qu'il nous donne la miséricorde, pour que nous puissions augmenter dans l'amour fraternel et qu'il vienne à l'expression. Et c'est un témoignage pour le Seigneur. C'est ce sur quoi le Seigneur attend. Amen. Continue, frère. Amen. J'aimerais compléter un point, et c'est celui-ci, il dit ici, celui qui met, il habite dans la mort, celui qui est, demeure dans la mort. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Ça m'a vraiment parlé. Je prends ce point vraiment sérieusement. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Et je me suis posé des questions. Qu'est-ce qui est manifesté parmi nous? Qu'est-ce qui est visible parmi nous? Et par rapport à cela, j'ai lu quelques versets dans 1 Corinthiens 6. Verset 1. Et 6 à 8, je vous les lis. Il dit ici, c'est Paul qui parle à l'église à Corinthe, et ce qu'il dit, c'est « L'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints ?» Il continue, verset 4, « Si donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'église ne fait aucun cas, que vous prenez pour juge. » Je le dis à votre honte, ainsi il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères, mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Cela m'a beaucoup parlé. Si je ne m'occupe pas de ces choses, ça peut vraiment détruire l'Église. Quand j'ai réfléchi à ces choses, le Seigneur m'a parlé seulement un petit point. Il m'a dit, ne laisse pas d'espace à ton ennemi, au diable. C'est le point. Ne laisse pas d'espace au diable. Quand je suis venu de la vie de l'Église, nous avons toujours et à nouveau mangé Apocalypse 12, verset 11. Semaine après semaine, presque chaque semaine, nous avons pris ces versets. Et dans 1 Jean, quand nous avons relu ces versets, ça a été vraiment accentué à l'époque parce qu'il dit ici, Apocalypse 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ça, c'est le chemin pour vaincre le diable. C'est de ne pas aimer notre vie de l'âme jusqu'à la mort. Je remercie le Seigneur qu'il brille durant ce temps, qu'il nous montre à quel point l'amour fraternel est important. L'amour fraternel règne sur cette nature pécheresse du diable. Ils sont passés de la mort à la vie à cause, parce qu'ils aiment les frères. Amen. Et ça, c'est par la vie de résurrection. Encore un point qui m'est venu, ce qui est en lien avec cela. Au début, j'ai dit quelque chose qui doit être manifesté, quelque chose doit être manifesté dans l'Église. Le Seigneur a laissé sa gloire pour qu'il puisse atteindre la gloire avec nous par l'homme, qu'il est une expression de la gloire par l'homme. Pourquoi est-ce qu'il a fait cela? À la fin, il dit, dans Jean 13, versets 34 et 35, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et là, le point, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le Seigneur a vraiment un but élevé avec nous. Il veut faire de nous Philadelphie. Ces jours, j'ai relu Apocalypse 2 et 3. Il y a une église ici que le Seigneur recherche, c'est Philadelphie. C'est cette église de l'amour fraternel. Quand je vois cela, comme c'est difficile de laisser quelque chose, de laisser mon opinion de côté, parfois je dois me demander. En fait, c'est une petite décision de mon côté, mais en fin de compte, ça a une grande conséquence. Si nous pratiquons tout cela, le Seigneur va obtenir Philadelphie, l'Église de l'amour fraternel. C'est un fort encouragement pour moi en ces jours. Dans le monde, là-dehors, comme George l'a dit, l'amour va refroidir chez la plupart. Mais en nous, de l'autre côté, si l'amour augmente, quelle merveilleuse expression nous aurons du Seigneur. Nous voulons nous lever. Alors que le monde décroît, nous montons sur la montagne. Et dans Romains, nous dit que la création attend la manifestation des fils de l'homme. Nous voulons aussi attendre que le Seigneur maintenant obtienne son Église à Philadelphie. Nous n'attendons pas juste, mais nous collaborons avec le Seigneur pour cela. Nous laissons notre vie de l'âme à cause de l'amour fraternel, l'amour pour mon frère. Amen. Merci Seigneur. Corinthiens 13, 1 à 7. En lien avec l'amour. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, Si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai même tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Amen. L'amour ne périt jamais. Merci Seigneur. Louez le Seigneur. Ce sont des versets merveilleux. Merci pour ton merveilleux amour, Seigneur. Merci pour ta longanimité. L'amour ne se vante point et ne s'enfle point d'orgueil. Si nous n'aimons, n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien.